Très bien. Il y a d'autres nouvelles. Et ce matin, le Journal de Montréal nous dit que l'ancien numéro 1 de l'UPAC, Robert Lafrenière, est ciblé par l'enquête sur les fuites d'informations confidentielles, des fuites qu'il avait pourtant dénoncées en disant qu'il était pour trouver le bandit ou les bandits qui ont fait ça. Et ce que je vous disais la semaine dernière semble se confirmer. Je vous disais quoi la semaine passée? On avait comme mis de côté, après l'annonce de la suspension de Martin Prudhomme, le fait que deux autres personnes avaient été tassées. Là, on a spiné que c'était des déplacements administratifs, ce qui est vrai, mais ce qu'on a oublié de dire, c'était lié à des allégations criminelles, ce qui est quand même pas banal. Puis je vous disais que bizarrement, la suspension de Martin Prudhomme arrive quelques jours après, c'est ce qu'on m'avait dit, une rencontre avec M. Boulanger, qui est donc celui qui était le numéro 2, André Boulanger, et qui aurait décidé de témoigner contre son ancien patron. Alors, c'est quand même pas banal. Un. Deux, ce qu'il faut aussi considérer, pourquoi quelqu'un décide de virer sa veste? Pourquoi M. Boulanger décide de témoigner ou de parler contre son ancien patron de l'UPAC? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il est lui-même celui qui aurait fait un certain nombre de fuites, alors que c'est lui qui avait déclenché l'enquête pour savoir d'où venaient les fuites et qui visait notamment Guy Ouellet. On pourrait y revenir. Mais ça veut donc dire que le château de cartes là, de l'UPAC est en train de s'effilocher. Sur les fuites, sur la façon dont on a bâti le dossier de Guy Ouellet, qui, je vous le rappelle, ne mène absolument à rien. On est en train de blanchir Guy Ouellet là, sur la place publique. C'est-à-dire que la façon dont on a obtenu les mandats, la façon dont on a fait l'arrestation, les méthodes utilisées font l'objet d'un groupe à l'intérieur du bureau des enquêtes indépendantes. Et dans un geste rare, le DPCP a décidé de demander une enquête. Alors, est-ce que on a abus de pouvoir dans le cas de l'UPAC pour aller chercher des mandats? On a-tu été créatif à inventer des patentes dans les affidavits? Pas première fois là, que ça se serait produit. Mais c'est extrêmement sérieux. Et quand vous regardez ça, le principe souvent, hein, c'est quoi? C'est « je t'ai pogné ». Puis là, je pense à Boulanger, qui d'ailleurs, lui, arrêtait pas de répéter depuis quelques jours que, contrairement à ce que votre humble serviteur disait, il n'avait pas témoigné contre son ancien patron, qui n'avait pas viré sa veste, qui n'était pas devenu délateur, là, selon l'expression. Là, ce matin, le Journal de Montréal dit que oui. Fait qu'on est au moins deux à avoir ce genre de son de cloche. Et en plus, il y a un principe qui est toujours le même. Tu sais, tu ne veux pas tomber tout seul. Fait que si tu te fais ramasser sur une allégation criminelle, tu te reviens et tu te dis, garde. OK, m'a jasé. Puis est-ce qu'il va négocier quelque chose? Et là, l'autre point, c'est est-ce qu'il y a, au-delà de ses propos, il y a de la preuve, il y a des documents, il y a d'autres témoins? Sur quoi on se base? Parce que quelqu'un qui décide de devenir délateur, il faut corroborer. On ne peut pas se fier à la parole de quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Et tout indique, là, je regarde l'article de ce matin, puis on voit la chronologie des événements, que Martin Prudhomme, lui, est accusé, pas accusé, il est soupçonné d'avoir eu des communications inappropriées avec Robert Lafrenière, qui, vous le savez, est aussi son beau-père. Mais on parle de quoi comme communication inappropriée? Est-ce quelque chose de criminel là-dedans? À date, on n'a rien. Puis le gouvernement du Québec a décidé de liquider son directeur, parce qu'on ne se comptera pas d'histoire, là. Quand tu suspends puis que tu dis que c'est des allégations criminelles puis que tu spines dans les journaux que c'est grave sans dire c'est quoi, bien là, tu viens de marquer au fer celui qui était ton directeur à la Sûreté du Québec. Mais vous rendez-vous compte comment les criminels, voyant ça, voyant l'UPAC, là, les ex de l'UPAC s'entre-déchirer, l'UPAC qui essaie de se remettre debout, la Sûreté du Québec qui se fait décapiter, tu sais, c'est quand même pas banal, là, deux organisations policières majeures. Puis le SPVM qui se remet tranquillement de plusieurs années de guerre interne, d'enquête, sur les uns sur les autres, d'un climat malsain qui avait été largement documenté. Donc, tu as trois corps de police, là, UPAC, Sûreté du Québec, SPVM, qui vivent des périodes de crise ou qui se sortent de périodes de crise. Pensez pas que les Hells, la MAF et tous les criminels sont pas contents d'une situation comme celle-là. Rapidement, dans les autres nouvelles, la presse nous dit ce matin que le gouvernement américain savait depuis deux jours, ou en tout cas avait les informations depuis deux jours, concernant l'affaire du Boeing 737 MAX, mais n'a pas transmis l'info au gouvernement canadien, donc à Marc Garneau. En fait, Marc Garneau, quand il a pris sa décision, il a dit « Moi, je regarde ça aujourd'hui, je prends ma décision. » Bien, les Américains avaient cette info-là depuis au moins 48 heures. Alors, ils ont gardé ça pour eux. Quand je vous dis là que la sécurité a été un facteur, mais qu'il y a un enjeu économique important pour les transporteurs, pour Boeing, il va sans dire, mais quand même. Et aussi, on apprend ce matin que le pilote de l'avion qui s'est écrasé en Éthiopie, de façon, et ce sont les enregistrements de vol qui le démontrent, voit paniquer, avait demandé 3 minutes après son décollage de pouvoir retourner, donc d'aller se poser, en constatant que l'avion accélérait de façon anormale et qu'il y avait un problème à maîtriser l'avion en tant que tel. Il y a aussi des militants anti-avortement qui veulent manifester près des cliniques. On sait que ça avait été bloqué. C'est le ministre de l'époque, Gaétan Barrette, qui avait dit « C'est pas vrai qu'on va permettre à des gens d'aller intimider, harceler, achaler des femmes qui vont dans une clinique d'avortement, la clinique Morgan Taylor. » Et là, vous avez des militants qui vont demander à la Cour supérieure de déclarer la loi québécoise inconstitutionnelle. On sait que les manifestations sont interdites dans un périmètre de 50 mètres autour des cliniques d'avortement. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pas pour empêcher les gens de protester contre l'avortement, c'est pour empêcher ces manifestants et ces manifestantes de voir ces femmes. Puis c'est jamais facile pour personne d'aller dans une clinique d'avortement, c'est un choix extrêmement douloureux. Puis là, on essayait, évidemment, de les attraper au passage, de les convaincre de ne pas y aller, de montrer des photos horribles. Donc, sans parler aussi de menaces potentielles ou de menaces, de présence intimidante de ces manifestants. C'est pas une fois, là, tu sais, quand tu dis que c'est pratiquement tous les jours que ça se passe. Alors, on verra comment la Cour va recevoir cette histoire-là. Et je pense que ça fait pas mal le tour. On va parler, évidemment, des jeunes qui descendent dans la rue, inspiré par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, qui est donc l'instigatrice de cette grève de l'école pour le climat. Et il y a des dizaines de milliers de jeunes secondaires, collégiales et universitaires qui prennent part aujourd'hui à ces manifestations. 6h23, on va aller voir ce qui se passe sur la 440.